pour un accompagnement bienveillant des personnes âgées vulnérables ou en situation de handicap, c'était le thème de la conférence organisée jeudi dernier par l'association Alma 65 à la Chambre de commerce et de l'industrie des Hautes-Pyrénées. Plusieurs intervenants ont apporté un éclairage autour de cette question de société sous l'angle de la médecine, de l'anthropologie ou de la philosophie, et de nombreux aidants familiaux ont aussi témoigné. Dans ce reportage de notre correspondant Jean-François Courtille, la coprésidente d'Alma 65, Josette Camborde, détaille le fruit de cette conférence.
Nous avons eu de la philosophie, nous avons eu de la psychologie, nous avons eu du médical, nous avons eu simplement des émotions de par les aidants. Je crois qu'on en retire beaucoup de richesse et d'émotions, c'est-à-dire... Une certitude d'abord, c'est de partir de la personne elle-même, cette personne elle-même qui est vulnérable. Et on a appris ce qu'était la vulnérabilité, ce qu'était également l'autonomie, c'est-à-dire autonome jusqu'au bout, on peut l'être, c'est-à-dire avoir le choix dans sa tête et pouvoir exercer ce choix, même si le corps ne parle plus. Et parfois, même lorsque le mental est atteint de manière légère, nous ne parlerons pas effectivement des déficiences plus profondes. Donc, ceci a été très clairement exprimé. On devait entendre les besoins, les désirs et les attentes. Cette autonomie du désir jusqu'au bout a été extrêmement bien expliquée par nos différents intervenants, anthropologues, un écrivain, un médecin également doctorante en philosophie morale, en philosophie éthique, pardon, également un gériatre donc, et Anne-Marie Rousseau qui était cette ancienne soignante et aidante à l'heure actuelle de la personne, d'une personne âgée vulnérable qui est sa mère. Beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Cela nous permet aussi de voir quelles sont les failles du système actuel justement pour aider à cet accompagnement bienveillant, notamment sur les aidants à domicile qui ont des besoins de coordination, et les aider à coordonner, également leur tendre la main pour aller les chercher au niveau des aides qui sont effectives au niveau de ce département du 65, c'est-à-dire le répit, c'est-à-dire les groupes de parole, c'est-à-dire plein de choses, mais l'information n'arrive pas vraiment au seuil de ces maisons-là. Et la nécessité d'aller le leur dire et de personnaliser cette information nous a paru aujourd'hui assez clairement exprimée. Voilà, ils ont besoin de ça.
À l'instant, c'était Josette Camborde, coprésidente d'Alma 65. Le docteur Carpua, gériatre, explique les évolutions récentes en matière de médecine gériatrique et leur implication.
D'abord, je vais préciser, je suis gériatre, certes, mais retraité maintenant. Depuis 3 ans, mais je reste impliqué dans les milieux gériatriques et en particulier associatif avec l'association ALMA. La gériatrie a fait de grands progrès ces temps-ci et après, donc née il y a 40 ans, elle atteint une phase de maturité et aborde en particulier la prévention et la prévention de la dépendance, prévention primaire et la prévention de l'aggravation de la dépendance constituée, donc une prévention secondaire. Et la question que je me posais aujourd'hui, c'était est-ce que ces progrès de la gériatrie vont entraîner, en diminuant la dépendance, vont entraîner une diminution de la vulnérabilité et donc du risque de maltraitance de la personne âgée. Voilà le questionnement de base. Et on peut dire oui, c'est certainement, mais ce ne sera pas suffisant car cette prise en charge de la prévention qui nécessite des actions bien connues maintenant au niveau de la stimulation cognitive, au niveau de la promotion de l'activité physique et au niveau du maintien et du travail du lien social, ne peut pas se faire sur prescription simple. Elle relève bien sûr avant tout du désir du patient lui-même qui doit être informé et consentir. Elle relève également de la vision sociale actuelle et il faut lutter contre l'exclusion et l'agisme, je crois qu'on peut le dire, que l'on ressent actuellement dans la société pour vis-à-vis de la personne âgée dépendante, puisqu'on valorise la personne âgée autonome, productive, active et jeune si possible.
Est-ce que vous êtes confiant malgré tout en l'avenir, compte tenu de la réflexion qui est menée par des associations comme la vôtre, par des spécialistes ?
Oui, alors, en tant que gériatre, je suis ayant travaillé en gériatrie pendant 40 ans et donc vécu et participé en tant qu'acteur de terrain aux évolutions de la gériatrie, je suis effectivement à ce niveau-là très confiant au niveau des connaissances du vieillissement, au niveau des effets possibles de la prévention, même si bien sûr des pathologies n'ont pas encore de traitement, et je pense bien sûr aux pathologies de type Alzheimer. Mais tout le problème me semble être de travailler au niveau de la reconnaissance sociale dans notre société du rôle de la personne âgée, de lutter contre son exclusion, de reconnaître le rôle des anciens et de les considérer comme partie prenante, de ne pas les exclure de l'interdépendance sociale qui est la base de la vie collective.
Voilà, à l'instant, c'était le docteur Carpua. Enfin, Anne-Marie Rousseau, aidante familiale et ancienne soignante, précise la différence dans la manière de vivre de ces deux expériences de vie auprès des personnes vulnérables ou porteuses de handicap.
Je pense que par rapport aux soignants, je crois que en tant que soignant, on a choisi de faire ce métier de soins, donc de s'engager dans l'accompagnement de la personne. Donc on a reçu par là une formation, donc une formation qui nous donne des compétences pour pouvoir remplir notre mission. Alors, et d'autre part aussi, en tant que soignant, on va rencontrer la personne telle qu'elle est à un moment donné. Et je crois que ça, c'est au moins les trois points que j'identifie du soin et qui font un différentiel avec l'aidant familial. Aidant familial, je l'ai dit dans la conférence, pour moi, ça ne fait pas partie d'un projet de vie. On devient aidant familial parce que les circonstances de la vie nous amènent à en devenir. Bon, la dépendance d'un parent, une hospitalisation, le fait qu'on habite le plus près de ce parent, voilà. Donc on devient aidant un peu par hasard et pas tout à fait comme soignant par choix. Donc on peut devenir de manière brutale, soit de manière progressive. Hein. La personne tombe de plus en plus dépendante et on se met à l'aider et puis petit à petit on rentre dans cet engrenage-là. D'autre part, en tant qu'aidant, on n'a pas les compétences au départ, c'est-à-dire que aider quelqu'un à manger, faire une toilette, etc., surtout quand c'est son parent ou son conjoint, on n'a pas la compétence, alors que le soignant a appris. Donc, je dirais que l'aidant, il est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il apprend en même temps qu'il fait. Et on est beaucoup dans le système D, il faut inventer des choses pour essayer, on bricole. Il y avait une collègue qui disait, une amie qui disait, je bricole auprès de ma mère, et c'est vrai que des fois on bricole pour chercher. Et d'autre part, je crois que ce qui est le plus dur au point de vue affectif, c'est que l'on a on a un lien de parenté fort, on a des liens affectifs forts avec cette personne-là. Cette personne, on l'a connue antérieurement, et donc il faut faire le travail de deuil de la personne antérieure pour l'accompagner avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que ça aussi, c'est très difficile et c'est ce qui fait aussi la différence avec les soignants.
Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'être un aidant bienveillant, puisque c'était le thème de votre conférence?
Je pense que pour être un aidant bienveillant, il faut ne pas rester seul. C'est-à-dire pas se dire « je vais être capable ». Je crois aussi que parfois, quand on se trouve dans ces situations, il peut y avoir, je ne l'ai pas évoqué, mais le sentiment de honte. Donc des gens qui ont le sentiment de honte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de cacher et on va se débrouiller tout seul. Et donc, pour être bienveillant, je crois qu'il faut accepter l'aide des professionnels. Il faut ouvrir sa maison. Et avec beaucoup de simplicité, et faire confiance aux autres. Et je pense que pour rester aussi bienveillant, il faut savoir bénéficier des aides qu'on nous offre. Hein, Et il faut ces temps de répit que l'on donne, qui nous sont donnés, je crois qu'il faut savoir en profiter. Mais ça, bon, c'est aussi tout un travail à faire sur la déculpabilisation, parce que quand on est aidant familial, on est très souvent dans la culpabilité.
Voilà, à l'instant, c'était Anne-Marie Rousseau, aidante familiale. Et ce reportage, nous le devons à Jean-François Courtier, notre correspondant sur Tarbes.